Le journal Babel Pongo.
La fin de la conférence sur la paix, la sécurité et le développement dans les deux Kivu est annoncée pour ce mercredi à Goma. Des détails dans ce journal. 730 cas de viol enregistrés à Bafassende en province orientale en 2007, soit une hausse de 150% par rapport à 2006. C'était ressort du rapport de l'ONG Centre d'assistance médico-psychosociale, une hausse que l'ONG attribue au manque de sensibilisation des populations. 11 morts hier dans un accident de circulation à Katoto dans l'Ituri. La police des circulations routières évoque la surcharge et le mauvais état de route comme cause principale de l'accident. C'est un reportage à suivre dans la seconde partie de ce journal. Bonjour à tous. La fin de la conférence annoncée de Goma annoncée pour ce mercredi. L'acte d'engagement sera signé avant la clôture, a indiqué ce matin à la presse Vita Kamiré, porte-parole et président du comité de sages de la conférence. Claude Kianza est sur place à l'Université libre des Pays des Grands Lacs. Bonjour Claude.
Bonjour Babel Pongo.
Claude, est-ce que vous confirmez la clôture des travaux de la conférence pour aujourd'hui?
Effectivement, Babel, s'il faut se référer aux propos tenus lors de la plénière de ce matin à l'Université libre des Pays des Grands Lacs par l'abbé Malumalu, président de cette conférence. Toutefois, selon toujours l'abbé Malumalu, après la clôture officielle des travaux, donc les travaux vont se poursuivre, notamment l'audition et l'adoption des rapports des ateliers du Nord et du Kivu, ainsi que celui du comité des sages. Ces rapports n'ont pas encore été suivis et adoptés.
Mais Claude, qu'en est-il alors de la signature de l'acte d'engagement?
Oui, d'après le président du comité des sages, Vital Kamere, les groupes armés signeront aujourd'hui ce acte d'engagement pour une paix durable dans les deux Kivu, avec ou sans le CNDP, d'après toujours Vital Kamere, car certaines divergences subsistent encore entre le gouvernement et le CNDP, qui discutent d'ailleurs en ce moment au sujet de la réponse du CNDP à la divergence sur l'intitulé du document. D'après Vital Kamere, tous les autres groupes armés ont accepté les différents amendements qui ont été faits dans ce document, sauf le CNDP qui boude encore au sujet de l'intitulé de ce document.
Et Claude, par rapport à cet acte d'engagement, y a-t-il quelque chose à signaler du côté des autres groupes armés, notamment les Maïmaï?
Oui, par rapport au Maïmaï, Vital Kamere, ce matin, a déclaré que certains politiciens tentaient d'influencer des groupes Maïmaï pour qu'ils refusent de signer l'acte d'engagement pour une paix durable dans les deux Kivu. Vital Kamere a dit que si certains groupes armés Maïmaï refusaient de signer cet acte, dès son retour à Kinshasa, il amènerait cette affaire devant la justice, c'est-à-dire qu'il porterait plainte contre certains de ces politiciens qui influencent des groupes Maïmaï.
Merci Claude. Que peut-on attendre au stade actuel de la conférence de Goma? C'est la suite qui compte. Les gens doivent continuer à se parler et non seulement à attendre des signatures. Réponse de Arthur Kippel, analyste de l'International Crisis Group. Son organisation spécialisée dans la prévention des conflits avait déjà proposé une solution politique pour la paix au Kivu. Arthur Kippel est au micro de Georges Kamujova.
La paix, c'est pas seulement un bout de papier qu'on signe. Il y a plus que ça. Moi, j'ai l'impression que les gens tiennent à avoir absolument des signatures dans les deux heures qui viennent, dans les 24 heures qui viennent. Ça, c'est aussi un blocage. Si on a la signature, c'est bien. Mais le plus important, c'est pas la signature, il faut aller au-delà. Le plus important, c'est la sincérité de l'engagement de ceux qui signent sur ce document-là. Il faut pas s'attendre à des solutions miracles à Goma. Mais je crois que le mérite de la conférence, c'est d'avoir jeté au moins les bases. Les gens se sont dit des choses en se regardant en face. Il faut qu'on donne le temps à ce processus d'évoluer. On a déjà jeté des bases. Si ça bloque et que dans les 24 heures ou les 48 heures, il n'y a pas les signatures qu'on attend, eh bien, il faut continuer le travail.
Sur terrain, la situation humanitaire est inquiétante pour les milliers de déplacés venus du Nord Kivu et accueillis à Numbi. Numbi, c'est environ 30 km de Minova, territoire de Calais, dans le Sud Kivu. C'est le constat d'une première mission interagence MONUC, agence onusienne du Sud Kivu, arrivée sur place hier. Plus de 4000 ménages déplacés y sont enregistrés. Les plus récents ont fui les combats du mois dernier entre FRDC et éléments dissidents de Laurent Kunda. Selon le président des déplacés de Ngungu Masisi à Numbi, ces personnes vivent dans des conditions précaires. Elles n'ont jusque-là bénéficié d'aucune assistance. Des détails avec Michel Chirimwami.
Certains de ces déplacés sont venus de Ngungu, Ufamando, Kibabi, Karuba, Rubaya, côté Masisi au nord Kivu, fuyant les combats du mois de décembre dernier. Les autres viennent des hauts plateaux de Kalehe, notamment des Ziralo, depuis mai-juin dernier. Ils fuient les exactions de groupes armés comme les Maïmaï de Kirikitio réfractaires au brassage, les FDLR et les éléments des mouvements politico-militaires Pareco. Tous ces déplacés disent avoir quitté leur village en étant totalement démunis. Témoignage de Mathieu Zinema, jeune déplacé à Numbi.
Nous vivons une situation de souffrance et comme nous étions en fuite, nous avons tout perdu. Pas de casseroles, pas d'assiettes, rien du tout, même les vêtements, on nous les a ravis. J'ai quitté Rubaya, je suis venue avec les enfants et je suis maintenant très dépourvue. L'enfant passe le jour, la nuit sans manger, des maladies n'en parlons même pas. Nous sommes très nombreux dans pareille situation. Quand je suis arrivée, j'étais enceinte. Le jour où j'ai accouché, j'ai passé le jour et la nuit sans manger. J'ai failli mourir.
Sur le plan sanitaire, les déplacés bénéficient jusque-là des soins gratuits à l'unique centre de santé de Numbi. Mais selon l'infirmier responsable du centre, les stocks de médicaments fournis par Médecins sans frontières viennent de s'épuiser. En plus de cela, dans ce village de 19 000 âmes qui peinent à accueillir ces surplus de population, les vivres se font de plus en plus rares et coûtent de plus en plus cher. Devant la difficulté d'accessibilité par route, la mission d'évaluation humanitaire propose une assistance urgente en vivres et non-vivres à déposer à Kalungu, près de Minova, à 28 km de Numbi. Bukavu, Michel Chirimwami, Radio Okapi.
Le Fonds des Nations Unies pour la population vole au secours de plus de 900 femmes victimes de viols en territoire de Walungu au sud Kivu. Ces femmes encadrées dans des centres spécialisés du projet CAMS de Kanyola et de Walungu Centre ont reçu des machines à coudre, des moulins, des kits agricoles et des crédits. C'est dans le cadre de leur réinsertion socio-économique que 15 femmes violées et rejetées par leur mari ont aussi réintégré leur ménage. Notez que la même structure a également réhabilité et équipé les blocs opératoires et la maternité de l'hôpital général de référence de Bukavu. Notez aussi que 730 cas de viol ont été enregistrés l'année dernière à Bafoussindé. C'est un territoire situé à 262 km à l'est de Kisangani. Ces chiffres représentent une croissance de 150% par rapport à l'année 2006, selon un rapport du Centre d'assistance médico-psychosociale. Rapport présenté au début de cette semaine à l'occasion de l'évaluation des activités annuelles de l'antenne locale de cette ONG basée à Kisangani. Selon son chef d'antenne, cette recrudescence est due à l'expiration du projet de sensibilisation des populations de cette juridiction sur les violences sexuelles. De Bafoussindé, une correspondance de Ansel Massa.
Parmi les cas de viol enregistrés, on retrouve 11 garçons et 4 enfants de moins de 5 ans. Selon le chef d'antenne de l'ONG CAMPS, les zones les plus touchées sont les villages de Bomili, Bafoussana, Opiengue ainsi que la cité de Bafoussindé. Les mines de carrière sont également affectées par ce fléau. La même source souligne que l'augmentation des cas de violences sexuelles de l'année dernière par rapport à l'année antérieure, c'est-à-dire en 2006, est consécutive à la fin des projets de sensibilisation et de prise en charge médicale depuis juin dernier. Un projet qui était financé par la MONUC en 2006 et par le Fonds des Nations Unies pour la population au cours du premier semestre 2007. Projet qui, selon CAMPS, avait permis de détecter et de référer environ 400 cas à l'hôpital général de Bafoussindé. Suite au manque de moyens, la détection n'est plus possible et les victimes de viols ne peuvent plus être prises en charge médicalement. Le stock de produits étant épuisé.
À Béni, dans le Nord Kivu, signalons la réouverture lundi dernier du marché de Nobili à la frontière congolo-ougandaise. Ce marché a été fermé en novembre dernier à cause de l'apparition de la fièvre Ebola dans le district ougandais de Bundibugyo. Selon les autorités administratives et sanitaires de Béni, l'épidémie a été maîtrisée en Ouganda. Ainsi, les échanges avec ce pays ont pu reprendre. Les enfants congolais de Nobili qui étudient en Ouganda et qui n'ont pas pu suivre des cours pendant cette période ont également repris le chemin d'école de l'école le même lundi. Dans la seconde partie de ce journal, nous vous proposerons un reportage sur l'accident de circulation qui a eu lieu hier à Katoto en Ituri. 11 personnes sont mortes. Mais avant cela, voici l'actualité en plus bref. sport. La RDC célèbre aujourd'hui la Journée nationale des sports, une journée qui rappelle le retour triomphal de Léopard d'Addis Abeba en 1968 avec le titre de champion d'Afrique des Nations. Plusieurs manifestations sportives sont organisées cet après-midi à Kinshasa dans le complexe du Stade des Martyrs. Mais au niveau de la CAN au Ghana, ce mercredi, deux matchs sont prévus dans le groupe D, Tunisie-Sénégal et Afrique du Sud-Angola. International en Somalie, 5 obus de mortier ont explosé aujourd'hui à Mogadiscio, à proximité de la résidence du Premier ministre somalien. 3 autres obus de mortier ont touché les environs de l'aéroport de Mogadiscio, selon un porte-parole de la force de paix de l'Union africaine qui n'a pas fait état des victimes. Au Kenya, 7 personnes ont été tuées dans la nuit d'hier à aujourd'hui, 6 dans l'ouest du Kenya et une à Nairobi dans des affrontements à caractère ethnique. 6 personnes ont été tuées, des dizaines de maisons incendiées dans les districts de Nantes Sud dans la vallée du Rift. On compte au moins 780 personnes tuées dans des violences post-électorales au Kenya, notamment entre les partisans de l'opposition et ceux de Mwai Kibaki, mais aussi entre la police et des manifestants favorables à l'opposition.
Okapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
René Capita, vous nous amenez tout d'abord à Ilebo et à Bounia. Nous parlons d'abord de l'inondation des installations de la SNCC au port d'Ilebo, c'est dans les Kasaï occidentales.
La majeure partie des installations de la SNCC reste à ce jour inaccessible. C'est la conséquence des dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur la cité d'Ilebo. Selon les responsables de la SNCC, des travaux de sauvetage ont permis de ne pas suspendre les trafics ferroviaires. Toutefois, ajoute-t-il, les voies principales sont encore inondées et le mur de soutènement du quai est endommagé. La même source souligne que ces inondations sont la conséquence des constructions anarchiques aux alentours du port.
Rendons-nous en Ituri où 11 personnes sont mortes hier dans un accident de circulation.
Nous sommes à Katoto, village situé à 25 km au nord de Bounia. Un camion de marque Mercedes-Benz avec à son bord plusieurs passagers et des marchandises s'est renversé sur la route mardi dernier. La police de circulation routière évoque la surcharge et les mauvais états de la route comme cause principale de l'accident. On dénombre 3 enfants parmi les victimes. Des détails avec Jean-Claude Bissiliabo.
Parmi les victimes, il y a eu 3 enfants et 4 femmes. Tous les corps de victimes ont déjà été ramenés ce matin à Bounia. Certains sont gardés à l'hôpital général de référence de Bounia. D'autres ont déjà été récupérés par leur famille. Jusque-là, un seul blessé grave identifié est interné à l'hôpital général. Selon le président de l'association des chauffeurs du Congo, ASECO, ce camion a quitté Bounia hier dans la nuit aux environs de 20 heures. Il transportait en plus de passagers, de fûts d'huile de palme et des sacs du sol. Le commandant de la police de circulation routière de Bounia soutient lui que l'accident a été provoqué par la surcharge et les mauvais états de la route. Les chauffeurs étaient pour le moment en fuite. Il y a environ 2 mois, un autre camion appartenant à la même entreprise a fait 2 morts et plusieurs blessés suite à un accident similaire. Bounia, Jean-Claude Bissiliabo, Radio Okapi.
René, poursuivons ce tour du pays à Mbandaka avec la visite d'Opivia de l'envoyé spécial du Premier ministre britannique. Il est accompagné de l'ambassadeur du Royaume-Uni en RDC.
Conduit par le ministre national de l'Environnement José Ndundu, les deux émissaires britanniques sont allés faire un état des lieux avec en vue de la promotion des sites touristiques et de l'exploitation forestière dans la province de l'Équateur. Au cours de cette visite, le ministre de l'Environnement a révélé que la Grande-Bretagne vient de mettre près de 80 millions de dollars à la disposition des forêts congolaises. Soulignons que le gouverneur de l'Équateur, José Makila, a salué ce geste qui contribue au développement de sa province. Ce mercredi, la délégation s'est rendue au centre de recherche de l'IRSAC Mabali dans les territoires des Bikoro.
À Kinshasa, l'Assemblée provinciale a adopté le week-end dernier un projet d'édit portant création d'une direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK en sigle.
Avec pour mission l'ordonnancement et le recouvrement des recettes de la capitale, cette nouvelle structure ne risque-t-elle pas de prêter confusion avec les services des régies financières et de l'administration urbaine? Faux, rétorque le député provincial Laurent Batumona. Pour lui, il s'agit plutôt d'un outil nécessaire pour la mobilisation optimale des recettes de Kinshasa. Explication de Laurent Batumona au micro de Désiré Baéré.
C'est un outil important parce que notre constitution prévoit que certains impôts locaux seront gérés par les provinces, à commencer par l'impôt foncier, l'impôt sur les revenus locatifs, la patente, la vignette, la taxe spéciale sur la circulation routière, la taxe sur les concessions minières et hydrocarbures. Donc en fait, ce sont ces impôts locaux qui sont concernés par un volet de mobilisation des recettes de la DGRK, qui à l'époque était géré par la direction des impôts. Des élus de Kinshasa, dans ces branches, vont continuer à exister parce qu'ils ont des ressorts à l'acquitter. Ils vont s'occuper des impôts sur les bénéfices, des impôts sur les profits, des l'ICA. Ils ont encore beaucoup de matières. Mais seulement, il y a un démembrement d'une partie des impôts qui étaient gérés par eux qui reviendraient maintenant à la ville. Et par rapport à la DGRAD, c'est aussi la même chose parce qu'il y a une partie des recettes qui reviennent directement à la ville. Je prenais l'exemple du service notarial. Toutes les légalisations partie des recettes de la ville. Donc il n'y a pas un empiètement quelconque.
Voici, c'est la fin de ce journal. Sachez que l'information continue sur www.radiookapi.net.